carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
La Biennale de sculpture de hier offre l'indéniable intérêt de suivre l'évolution d'un art et d'établir un trait d'union entre les sculpteurs et le public. Parmi les 73 artistes exposés, trois d'entre eux, François Veille, Agnès Braquemont et Quentin Garel, dans des registres différents, portent haut en couleur la maîtrise d'un art. Rencontre avec trois sculpteurs, loin des modes ou des classiques, au plus juste d'une indépendance audacieuse. Dans cette émission, vous les entendrez parler de leur œuvre et de la sculpture qu'ils exposent à la Biennale. Ne relevant d'aucune école ou courant particulier, ils ont en commun d'exposer chacun à la propriété Caillebotte de hier, une œuvre, une seule, comme c'est la règle à la Biennale. Agnès Braquemont expose un bronze de 2008 dont le titre est « Figure sans poids grande ». François Veille, une ardoise d'Angers de 2009, baptisée 717, c'est son nom. Et Quentin Garel, un bronze de 2009. La sculpture s'appelle « Girafe ». Écoutons pour commencer François Veille évoquer son dialogue avec la pierre, des ardoises, des granites, des marbres qu'il fixe généralement sur une structure d'acier discrète faite de ressorts, de rouages et de tiges. Ces sculptures semblent intemporelles, arrachées aux entrailles de la terre, apprivoisées par sa main, et familières quand, sous l'impulsion de la main, elles entrent en mouvement et se métamorphosent en girouettes inattendues. Ailleurs, il présente une ardoise d'Angers et acier tout juste créée, composée de trois blocs de pierre, dont l'une d'elles, celle du milieu, dessine un grand cercle dans l'espace, à l'horizontale, lorsqu'on la touche. L'ensemble, entre équilibre et apesanteur, mesure à peu près 2 mètres et dépasse la tonne.
François Veille, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi travaillez-vous essentiellement la pierre ?
D'abord, je dirais que je ne travaille pas essentiellement la pierre. Enfin, je me sers beaucoup de la pierre, ce qui est tout un peu différent. Déjà, le point de départ, c'est la forme, la nature même de la pierre qui est devenue, par la force des choses, le sujet de mon travail, on va dire. Vraisemblablement parce que j'y puise une certaine énergie, et cette énergie, dans sa variété, dans les différents types de pierres, guide mes envies, mon imaginaire. Donc en gros, c'est plutôt la pierre qui me fait travailler, et à moi de transmettre ce qu'elle me raconte, et de jongler avec pour effectivement y faire un peu de mon travail. Prendre un peu d'indépendance, on va dire.
Alors comment choisissez-vous ces pierres ?
Justement, par la découverte de leur lieu d'habitation, leur façon de se mouvoir, je dirais, presque paradoxalement. C'est-à-dire comme elles se cassent, comme elles se plissent, comme elles se montrent dans leur mouvement. Donc ça veut dire que soit c'est un mouvement naturel qui est très lent, soit c'est un peu accéléré par la main humaine, mais ça reste proche de leur capacité originelle, c'est-à-dire donc dans les carrières, dans les montagnes, dans les falaises. Alors dans les falaises, on trouve des blocs de plusieurs dizaines de tonnes, mais on peut trouver aussi des blocs de quelques grammes. Alors effectivement, ça n'a pas le même sens, mais c'est aussi une parole d'un gramme ou d'une tonne ou dix tonnes.
Donc vous faites une collecte de ces pierres et puis après vous les faites parler.
Parfois ça prend du temps d'ailleurs. Je fais une collecte plus ou moins rapide, ça dépend aussi des circonstances, des possibilités. Et puis après, ma capacité à transposer ou à transcrire tout ça. Enfin, juste pour partir plus simplement, juste capable d'en faire quelque chose, quoi.
Alors, vous avez quand même une particularité, c'est que ces sculptures sont en mouvement, ou ces pierres sont en mouvement. Ces sculptures bougent, soit d'un mouvement de bascule, ou bien des rotations, des vibrations. On est surpris quand on regarde vos sculptures, puisque justement, on ne devine pas d'emblée qu'elles tournent, qu'elles bougent. Et on ne sait pas trop comment elles vont bouger, justement. C'est l'accès nous surprend.
L'intérêt de ne pas savoir, c'est de le découvrir. Et ça fait partie, je pense, de la relation au spectateur éventuel. C'est d'autant plus important que l'idée du mouvement est finalement restée, parce qu'il est arrivé un peu par hasard, est restée parce que c'est un moyen d'accès supplémentaire à quelque chose. Par l'intrigue, ça suscite, oui, un questionnement, une bizarrerie qui titille un peu, quoi. C'est pas le mouvement en soi, c'est pas pour le mouvement. Le mouvement fait partie de quelque chose de plus difficile à définir. Mais en tout cas, il a une part importante parce que ça permet de rendre les choses plus accessibles. Le côté ludique, en fait, comme on dit souvent, c'est un bon moyen d'accès à condition qu'on ne s'en tienne pas à ça.
C'est quoi aussi une touche de poésie
C'est déjà, sur une exposition, ça marche extrêmement bien avec les enfants. Quand les enfants sont seuls, il y a rarement de problème. Parce qu'ils comprennent assez vite. C'est l'adulte qui se met en concurrence et qui donc provoque le danger et les problèmes.
Parce qu'il faut dire que vos sculptures, certaines sont une grande masse qui sont tout d'un coup légères.
Mais ça aussi. Alors
vous jouez avec la pesanteur de tous ces volumes et de ces masses. Vous parliez tout à l'heure de petites pierres, de petits éclats, mais vous travaillez aussi
des... Mais ça peut être dangereux dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être dangereux pour la sculpture ou pour la personne. Justement, la notion de danger, pour moi, est très importante parce que ça fait partie aussi de l'appropriation de quelque chose. Quelque chose qui est complètement sécurisé stérilise l'appropriation. Or, et en particulier à notre époque, on a envie d'éliminer tout danger. On finit par l'augmenter, en fait. Parce qu'on n'a plus du tout l'habitude de le gérer. Moi, je me mets d'une certaine manière en contre. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est justement de savoir quelles sont les limites et de les révéler, de jouer avec. Et c'est ça la vie, quoi, tout simplement.
Alors, vous invitez ceux qui regardent à toucher ces sculptures et à leur impulser un geste, un mouvement.
Je les invite à les toucher, mais aussi à y faire attention. Et les deux en même temps. Et les deux en même temps, c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important et difficile que c'est un peu en déshérence, cette façon de voir les choses.
Vos sculptures de pierre conservent en apparence une part de leur aspect d'origine.
Ah, c'est plus qu'une part, c'est l'essentiel de leur intégrité d'origine. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas tailleur de pierre, tout simplement parce que si je taille la pierre, je me débrouille pour que ça ne se voit pas ou le moins possible. Le but, c'est justement de montrer la pierre aussi telle que je la ressens, telle que je la perçois, en tout cas au plus proche possible, tout en la mettant dans une situation où ça soit plus accessible à quelqu'un qui a moins l'habitude de le faire. Donc effectivement, c'est du bloc de pierre brute. D'ailleurs, quand on me demande si je suis tailleur de pierre ou sculpteur, je suis plus casseur de cailloux qu'autre chose. Je travaille beaucoup plus le métal ou la mécanique, on dirait, même si elle ne se voit pas, que la pierre elle-même, même si pour moi c'est important de, justement pour comprendre la nature même de cette roche, de voir comment elle est extraite, comment les gens la travaillent à l'origine. Parce que ça me donne beaucoup d'indices sur ses qualités qui ne sont pas forcément faciles à voir comme ça du premier œil. Donc voilà. Le résultat, c'est effectivement des blocs de pierre brutes, aussi brutes que possible, même si parfois ce n'est pas le cas, mais disons que c'est des facilités que je m'accorde. Et le vrai travail, c'est la mise en situation et dans un espace. Et effectivement, finalement, le mouvement me permet de justifier un peu plus facilement ma place dans tout ça.
Depuis, ça fait combien, 20 ans, 25 ans que vous travaillez la pierre ? À quoi êtes-vous resté fidèle par rapport à vos premières sculptures ?
Le besoin de me faire plaisir.
J'espère. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu la sculpture que vous exposez hier, justement dans le cadre de la Biennale 2009 ? Est-ce qu'elle a un nom d'abord ?
Non, elles n'ont jamais de nom, pour deux raisons. La première, c'est ma fainéantise. Et la deuxième, et peut-être la plus importante, c'est que le nom n'a pas beaucoup de sens pour moi. En ce sens que, à chaque fois que j'ai vu un nom, je trouve que c'est plus réducteur. Ça donne un indice qui malheureusement, est trop présent et vite empêche une lecture plus sensible ou plus instinctive de la pièce.
Ah, on a oublié de dire quand même que vos sculptures ne sont pas représentatives de l'art figuratif, ce qui ne les empêche pas d'être dénués d'expression, mais c'est, vous travaillez plutôt des formes abstraites comparées à... Enfin non, même pas, mais...
Je suis extrêmement figuratif. Je représente des pierres. D'ailleurs, je ne les représente pas, je les pose.
Oui, voilà, voilà. D'accord.
Donc, il n'est pas plus figuratif, c'est une pierre, des pierres, il y en a plusieurs, mais voilà. Non, c'est tout à fait... Après, non, il n'y a rien d'abstrait dans tout ça.
Oui, c'est pour qu'on puisse se faire une idée visuelle de ce qu'on voit, ce qui n'est pas facile.
Non, ben, il faut imaginer des morceaux de pierre avec des formes un peu étranges. Étranges en sens que, qu'elles ne sont pas taillées, elles ne sont pas ou peu maniées par la main de l'homme. Donc, on pourrait imaginer ce qu'on trouve sur une plage ou sur un chemin, une pierre qui a une drôle de forme.
Et que vous exploitez, que vous... assemblés, que vous dressez, que vous...
Voilà, alors justement, pour en revenir à la sculpture de l'exposition de la propriété de hier, elle n'est pas dressée, justement. C'est vrai qu'on pourrait instinctivement adresser une belle forme à la dresser dans l'espace, voir les menhirs ou autres pierres de ce genre. Et là, en l'occurrence, non, c'est plutôt un jeu avec la... sur l'horizontale, sur un espace un jeu de mouvement autour d'un cercle qui se dessine par le mouvement de ces trois pierres.
Ces trois pierres issues de la même roche ou...
Oui. Donc, trois pierres qui viennent des ardoisières d'Angers, où ils m'ont fait la joie d'ouvrir un espace où ils posent toutes les pierres qui ont des formes bizarres et dont ils ne peuvent pas se servir.
Ils voulaient mettre de côté.
C'est pas pour moi en particulier. Ils ont fait un énorme champ où toutes ces pierres ont des formes étranges, de toute taille. Il y a des pierres de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres. Ils les ont mis là parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ça et que plutôt que de les détruire, ils les mettaient à disposition.
Cette sculpture a été déjà exposée ou vous l'avez faite exprès pour la Biennale ou...
Elle a été faite exprès pour la Biennale, en particulier parce qu'il y avait des problèmes logistiques.
Donc vous parlez de taille, hein, de dimension. Pourquoi est-ce qu'elle a été qu'est-ce qui est problème de logistique
de poids. Logistique de poids, tout simplement.
Donc vous avez... Alors elle est à l'extérieur, dans le parc de la propriété Caillebotte. Et comment le public a réagi?
Je ne suis malheureusement pas resté pour le voir. J'en ai eu quelques échos hier, manifestement bien, trop bien, ce qui fait que ça les a un peu inquiétés et qu'ils essayent de tenir le public un peu à l'écart. Parce qu'effectivement, il y a toujours cette notion de danger qui est tellement plus dans la tête des gens que parfois il faut agir à leur place et c'est bien dommage.
Merci François Veil. Agnès Braquemont défie elle aussi les lois de la pesanteur. Elle dessine, grave et sculpte des corps, des personnages couplés en bronze ou en terre, qui semblent prendre leur point d'appui dans le vide. Elle affirme l'être, ses incertitudes, et nous fait découvrir un sens de l'équilibre qui semble issu d'un fragment primordial. Elle nous parle de son œuvre et de la pièce qu'elle expose ailleurs, un bronze de 2008 qui représente une figure féminine sans tête, penchée en arrière, à l'extrême, dont les pieds reposent sur une carapace de tortue. Agnès Braquemont. Alors, la figure humaine est au centre de votre création. Vous travaillez beaucoup sur le corps humain, sur la figuration.
C'est mon sujet préféré parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Je trouve que c'est vraiment... une merveille, le corps humain. Donc, c'est un outil de travail pour moi. Et il m'accompagne, il est présent tout le temps. Et donc, comme j'ai reçu en héritage de ma famille d'artistes la possibilité d'étudier le corps humain et la conscience de ce que ça représente, et qu'en plus, nous avons en nous les proportions humaines, donc j'ai le sentiment, souvent, qu'elles sont déjà en moi et que les sculptures sont déjà en moi intériorisées. avant d'être dans l'espace. Voilà, tout ça, ça fait que je ne peux pas vivre autrement qu'avec la figure humaine.
Donc c'est au cœur de votre création. Est-ce qu'on peut dire que vous appartenez à ce courant de la figuration humaine dans la sculpture, que vous avez une filiation classique?
Je ne sais pas à quel courant j'appartiens vraiment. Parce qu'en même temps, je ne ressens pas du tout les clivages entre l'abstraction et la figuration, dans la mesure où mes figures sont entièrement déconstruites et reconstruites. Parce que le XXe siècle est passé par là et je suis une enfant de l'art moderne, donc je ne raisonne pas comme les classiques. Mais dans ma famille, il y avait une grande tradition académique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que depuis trois générations, voire même plus, puisque mon arrière-grand-oncle Félix Braquemont était l'élève de Guérin et de David, et qui est passé aussi par Ingres, tout a été transmis depuis le 19e, tout autour de la figure humaine, ce qu'on appelait l'académie. Mais j'ai reçu des bénéfices de ça, et en même temps, je l'ai déconstruit parce que nous sommes dans une époque où on interprète différemment les choses.
Alors, pour présenter en quelques mots votre œuvre, vous travaillez sur différents thèmes, celui du passage, des têtes, des gisants qui aussi, sur la guerre, sur des crânes. Et il y a des compositions de personnages qui se soutiennent sans qu'on sache exactement qui soutient l'autre. Et pourtant, vous dites ne pas vouloir raconter d'histoire. Alors justement, dans ce travail de déconstruction dont vous parliez, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez nous présenter?
Je parlais de ne pas raconter d'histoire parce que à l'époque où il me tenait à cœur de montrer la guerre, de montrer le ghetto, de montrer des éléments tragiques de notre siècle. J'étais un petit peu gênée que l'histoire prenne la priorité sur la forme plastique. Et donc, peu à peu, j'ai réussi à me dégager de ça pour être vraiment plus profondément. J'essayais, et j'essaye toujours d'être plus profondément dans la recherche plastique, parce que pour moi, c'est aussi un piège d'aller vers le sujet. Et le sujet peut vite devenir une anecdote. Donc, pour éviter ça, je suis heureuse d'avoir eu un parcours qui me menait vers des recherches, je dirais, plus abstraites au sujet de l'histoire. Et le thème des corps portés est une façon d'exprimer aussi une certaine souffrance, mais aussi une certaine joie, une grâce et d'autres sentiments meilleurs, sans avoir à passer par la guerre et son côté anecdotique.
Alors vous utilisez beaucoup le bronze, je crois, mais pas seulement.
J'adore le bronze. C'est la terre, mon matériau de prédilection. Et quand on parle de bronze, évidemment...
Puisque vous partez de rien, donc... De
rien, ouais. Voilà. Alors, les sculpteurs ne partent de rien, c'est un vide sidéral, c'est l'inconnu. Je n'oublie jamais que nous sommes dans l'inconnu, là où nous devons rester, d'où ce piège de l'anecdote qui guette tous les artistes. Après, mon matériau, c'est la terre. J'emploie la faïence quand elle est cuite, mais souvent la terre crue que je charge d'autres matériaux. Ça paraît prétentieux, mais c'est quand même Michel-Ange qui utilisait cette technique. Elle avait été perdue, mais j'avais bien vu que des sculptures en terre crue de Michel-Ange duraient depuis 500 ans.
Alors donc, vous êtes intéressée à ce procédé.
Donc ça m'a beaucoup intéressée de pratiquer ce matériau, parce que ça m'a facilité la vie, parce que c'est lourd. La sculpture, c'est lourd. C'est lourd, c'est des matériaux qui pèsent, qui sont contraignants. Et pour reparler du bronze... Je suis ravie quand mes sculptures passent au bronze. Ça me donne vraiment une grande joie. Ce sont des témoignages de ce que peuvent être mes sculptures et je souhaite vraiment continuer avec les fondeurs. J'aime aussi beaucoup l'ambiance des fonderies d'art qui sont soit la fonderie Susse, la fonderie Clémenti, la fonderie de Coubertin qui sont vraiment les meilleures et je suis heureuse quand je suis dans une fonderie. Avec toute l'alchimie qui peut s'y passer et qui donne à notre sculpture une nouvelle lumière.
Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le rapport entre le déséquilibre et l'équilibre? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de sculpteurs, bien sûr, mais dans votre travail, dans votre œuvre, ça saute aux yeux. On est confronté à ça immédiatement. Pourquoi est-ce que c'est si fort? Qu'est-ce qui vous intéresse dans
Je crois que c'est plus que la stabilité, que j'admire beaucoup d'ailleurs chez les sculpteurs, chez certains sculpteurs aussi d'autres cultures comme les sculptures africaines. La stabilité, c'est une chose, l'axe central, c'est une chose, mais retrouver l'axe par le déséquilibre, ça me passionne encore plus. Alors, mes sculptures sont dans un état à la lisière entre l'équilibre et le déséquilibre. Et c'est là que tout se passe pour moi. Cette recherche, elle a lieu là. Cette recherche de cette ambiguïté entre l'équilibre et le déséquilibre dans l'espace, elle me permet d'accéder à une sorte de faille. Et au fond de cette faille, il y a peut-être un secret. Il y a peut-être ma recherche intérieure la plus intime et la plus précieuse de ma vie. Elle est au fond de là. Elle est peut-être comme une petite lumière qui est au fond de l'espace et du temps. Et moi, ma façon d'accéder à cette lumière, c'est par la sculpture, parce que je suis sculpteur, et par cette faille que je trouve avec des figures qui sont en déséquilibre.
Alors, prenons peut-être un exemple. À la Biennale de sculpture de hier, vous avez présenté une sculpture qui s'appelle « Figure sans poids grande », qui est un bronze qui fait à peu près 80 cm et justement qui représente un corps humain féminin en déséquilibre sur une carapace de tortue. Alors peut-être que vous allez en parler beaucoup mieux que moi. Vous pouvez nous la présenter ?
Bien sûr, c'est ma fascination pour la représentation de la création d'Ève que j'ai découvert. Il faut croire que c'était ce que je cherchais inconsciemment, parce que je suis tombée sur un bas-relief du 15e siècle italien et j'ai vu que Ève était, quand elle arrivait sur la Terre, elle était dans une sorte de torpeur. Elle était toute en recherche et un petit peu dans les limbes. Et donc, c'était cet instant que le sculpteur avait capté. Ça m'a beaucoup intéressée. J'ai retrouvé après plusieurs peintures sur ce thème qui a été exploré par les peintres pendant plusieurs siècles. C'est cette création d'Ève qui m'a intriguée. Et depuis, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à cette création d'Ève et aussi à la relation qu'il y avait entre Adam et Ève, qui n'est pour moi que la même figure. Et j'essaye de comprendre ce qui se passe à ce moment-là, à cet instant-là de la Genèse.
C'est une inspiration spirituelle ou biblique ou...
Pour moi, on ne peut pas passer à côté de notre tradition d'histoire de l'art. On a la chance d'avoir un héritage extraordinaire de tableaux, qui sont des thèmes qui intéressaient les artistes. Et si les artistes se sont intéressés, de même qu'ils se sont intéressés aux vanités, parce que le crâne est un objet merveilleux, ils se sont intéressés à la création d'Ève ou au portement du corps du Christ ou à la Pietà, toujours de la même manière, toujours pour des raisons d'inspiration plastique.
Vous êtes très proche de cette période de la Renaissance, plus qu'une autre. Celle-là vous parle davantage.
Très proche d'avant la Renaissance.
Juste avant.
Après, tout bascule. Après, on essaie d'expliquer les choses et on essaie de figurer. Alors qu'avant, c'est le symbole. Avant, on est dans le symbole. Avant, peu importe l'allure d'un visage humain ou une histoire véridique. Avant, on cherche beaucoup plus profondément à représenter un signe. Et c'est, pour moi, très intéressant. Ça s'arrête au 15e.
Alors, en héritière, on va dire, mais en même temps, vous transformez tout cet héritage de l'art, en fait.
Oui, j'en ai beaucoup souffert.
Justement, vous en êtes libérée.
J'essaye. L'académie, c'était terrible à la fois. C'était lourd à porter.
Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'un thème vous accompagnait plusieurs années. Et là, la figure d'Ève que vous avez représentée est aussi sur le dos d'une carapace de tortue. Est-ce que c'est un thème qui vous passionne particulièrement en ce moment ?
La tortue a disparu de mon vocabulaire plastique. Ah, c'est terminé.
D'accord. La page est tournée.
Elle a tourné la page, donc la page était pleine, sinon je ne l'aurais pas tournée. Et elle m'a accompagnée seulement 3 ans et demi. Et elle s'était substituée au crâne, justement, parce que j'ai étudié énormément les crânes humains, jusqu'au moment où il y a eu, pour moi, un effet de similitude avec la tortue. Et la tortue étant présente dans les mythologies et dans les traditions culturelles de l'humanité. C'est un animal qui m'a beaucoup intriguée, beaucoup plu. Et la forme plastique, encore une fois, c'est toujours ma préoccupation. M'a accompagnée au même titre que les crânes m'accompagnaient et m'intriguaient. Il y a c'est peut-être qu'une analogie, mais je vois vraiment dans la naissance d'un crâne d'enfant une similitude avec le crâne de tortue.
C'est pour ça qu'on voit cette petite... je ne sais plus comment ça s'appelle chez les nouveau-nés.
Chez les nouveau-nés, ça s'appelle une fontanelle. C'est le cartilage et effectivement, les écailles de tortue croissent de la même façon que les os d'un crâne humain. Et ils s'ouvrent comme une fleur, ils s'épanouissent. Et il y a du cartilage dans la carapace d'une jeune tortue, voilà. Ce que vous voyez là, sur le bronze, qui a été moulé d'après une terre crue, c'est les traces du trait de coupe du mouleur.
D'accord.
Que j'ai volontairement laissé. Parce que les mouleurs laissent des traces et donc,
normalement, les sculpteurs les polissent ou les effacent.
Oui,
ou...
à une époque, au 19e, on les laissait pour montrer la qualité de travail de moulage. Après, on les a effacés. Et moi, il se trouve que j'ai gardé celui-là parce que je me suis accaparée d'une trace pour faire mienne la trace qui fait partie de ma sculpture maintenant.
Très bien.
C'est aussi une façon de rendre hommage au métier de moulage et de fonderie.
Agnès Braquemont, dans vos sculptures, bien souvent, la figure humaine est un peu fragmentée ou bien il lui manque un bras ou une tête. Enfin, ça dépend, c'est pas une loi. Et justement, dans votre démarche, dans la démarche dont vous nous parliez tout à l'heure, cette démarche de déconstruction, qu'est-ce que vous faites de ces... Qu'est-ce que vous voulez signifier ou à quoi ça correspond ?
Oui, voilà. Alors justement, pour moi, ce n'est pas la notion de manque. Parce que ces membres ou cette tête qui n'est pas là, parce qu'elles ne doivent pas y être. Et que l'entité qui est formée par ce qui existe dans l'espace suffit. Que, pourvu que cette forme de corps soit assez aboutie, je dis assez parce qu'elle n'est jamais suffisamment à mon regard. C'est pour qu'elle soit aboutie, j'allais dire même qu'elle tienne debout, alors que je suis toujours en déséquilibre, mais peu importe. Qu'elle tienne debout, entre guillemets. Peu m'importe, si un bras ne se justifie pas, si je considère qu'il n'a pas lieu d'être, parce qu'à ce moment-là, ça ajoute un point qui disperse
l'attention.
Je ne vois pas pourquoi ce bras existerait. Et les têtes, Dieu sait si j'aime les portraits, les bustes, mais qu'il manque une tête, ben justement, ce n'est pas un manque. Et je crois que c'est Giacometti qui disait, je ne suis pas sûre que ce soit lui, parce que ses sculptures n'étaient pas assez phales, mais je pense... Quelqu'un disait, quand vous allez au Louvre et que vous voyez des têtes tout le long des couloirs, vous ne vous dites pas, il manque des corps. Ce sont des portraits, ce sont des têtes, ce sont des bustes. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait cette forme de tête si elle ne se justifie pas. Par contre, j'aime beaucoup modeler des visages. C'est autre chose.
Quand est-ce que vous considérez alors qu'un travail est définitif ? Parce qu'à un moment, vous avez abordé ça.
L'aboutissement, c'est très délicat, parce que je crois qu'il faut faire confiance à la sculpture, et c'est elle qui dit si elle s'arrête là. Je crois qu'elle dit qu'il faut être très très à l'écoute à un moment qui est un moment crucial. Si la sculpture dit on arrête, on ne peut pas exagérer parce que sinon on risque de tout détruire et tout s'inverse. Alors il y a un moment où on ne peut plus. Et comme ce moment ne correspond pas à la plénitude que l'on recherche, on va immédiatement commencer une autre sculpture qui, elle, va être la continuité, qui va être la même que la précédente. Seulement, ça va être un autre volume. Mais c'est, au fond, on ne fait qu'une seule sculpture et non plusieurs sculptures, parce que c'est un enchaînement infini. Et c'est parce qu'on est mécontent, c'est parce qu'au moment où on se dit on doit arrêter là, la sculpture nous réveille en disant arrêtez, voilà, ça y est, on ne peut plus aller plus loin. À ce moment-là, il faut commencer autre chose absolument.
De différent, de nouveau. Vous vouliez ajouter quelque chose sur l'abstraction ?
J'ai évoqué le faux, ce qui était pour moi une fausse appréhension entre la figuration et l'abstraction, et que j'ai une vision abstraite du moment même que mes sculptures, mes corps ne sont pas complets. Donc je m'apparente à quelque chose d'abstrait par cette manière de ne pas compter les membres et de ne pas compter les différents morceaux d'un corps humain.
Merci beaucoup Agnès Braquemont.
Merci à vous.
Après les figures humaines d'Agnès Braquemont, retrouvons les figures animalières d'un jeune sculpteur. Quentin Garel dessine et sculpte des crânes d'oiseaux, des animaux domestiques ou de la jungle qu'il place parfois en trophée. L'artiste crée un bestiaire bien à lui, dont l'humanité interroge. Rencontre avec Quentin Garel dans son atelier pour parler de sa démarche et de sa sculpture exposée dans le parc de la propriété Caillebotte, un bronze baptisé « Girafe ». Sur le vert encore tendre de la pelouse de ce mois de septembre, émerge en effet, tel un périscope sorti des profondeurs de la terre, un cou de girafe gracieux dont l'allure donne le rythme du pas dont on ne voit pas le corps. Quentin Garel. Quentin Garel, bonjour.
Bonjour.
Hier, vous exposez une sculpture, un bronze, qui s'appelle Girafe. Vous êtes un peu un spécialiste de cette sculpture, mais qui n'est pas représentative de l'art animalier dans la pure tradition. Vous détournez les choses, vous êtes un jeune sculpteur. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu votre démarche et votre rapport à ce monde animal que vous avez fait vôtre.
Alors oui, effectivement, hier, j'ai exposé, dans le cadre de cette exposition collective, une girafe qui est une étude un petit peu sortie de son contexte, puisque c'est une étude préparatoire à un projet de fontaine qu'on a réalisé avec des amis paysagistes à Lille, pour la municipalité de Lille. Voilà, donc il s'agit d'une forme d'étude préparatoire au projet qui, effectivement, ne correspond pas tout à fait aux travaux antérieurs que j'ai pu réaliser autour du thème du trophée et de l'orgueil humain que je mettais en scène à travers ces animaux de consommation. Donc là, voilà, il s'agit un peu d'une...
Les animaux de consommation, c'est-à-dire ?
Depuis quelques années, en fait, j'avais, d'ailleurs, c'est un peu une série parallèle, développé un travail animalier. Enfin, j'aime pas beaucoup ce terme, ça nous classe dans un registre qui est pas vraiment le mien, mais enfin, j'avais beaucoup travaillé sur les animaux de consommation en mettant en scène, si vous voulez, des animaux comme vaches, cochons, poulets, sous forme de trophées. Voilà, donc ce qui était un travail un peu satirique sur l'orgueil humain qui s'exprimait à travers le trophée. Suite à ça, on avait développé avec les paysagistes quelques projets en lien avec l'animal, mais qui m'éloignaient un petit peu du thème du trophée, thème récurrent que j'abordais dans l'atelier.
Ça, c'est un thème que vous conservez ?
Oui, absolument. Oui,
c'est quelque chose qu'on retrouve dans vos compositions. Vous retravaillez sur le trophée, sur la métaphore du trophée, ou c'est quelque chose que vous avez abandonné après l'avoir exploité abondamment ?
Non, c'est toujours présent. C'est vrai que l'animal, sous toutes ses formes, comporte, c'est un sujet très universel, qui donne lieu à des projets assez différents. C'est vrai que je suis un peu embarqué dans des histoires paléontologiques, des histoires de jardins. puis aussi des histoires plus décoratives ou ornementales, comme des fontaines, ou voilà. Donc, avec des architectes, des paysagistes, des sculpteurs, des musées, ça génère des projets qui me sortent un petit peu, moi, de ce point de départ qui était le trophée, sur lequel je reviendrai, mais bon, je n'ai pas de volonté absolue de tenir à ce sujet. Je m'en écarte, j'y reviendrai, mais voilà, c'était un point de départ en tout cas.
Vous avez toujours sculpté en vous inspirant du monde animal ?
Non. C'est vrai qu'au départ, enfin ça c'est quand j'étais étudiant au Beaux-Arts, j'ai beaucoup travaillé sur le thème de la ville en ruine. Voilà, j'avais très envie d'aller à Beyrouth en programme d'échange avec les Beaux-Arts de Beyrouth. À ce moment-là, ce n'était pas possible. Voilà, j'ai toujours été très fasciné par le romantisme de la ruine, Hubert Robert, etc. Bon, j'avais envie de parler de la ville contemporaine. C'est vrai que les Poirier avaient beaucoup travaillé sur la ville antique, mais aussi sur des choses plus récentes. Et ces thématiques-là m'intéressaient beaucoup. C'est vrai que j'ai brutalement changé de sujet et je suis passé de la ville en ruine au trophée, à l'animal déchu. Peut-être il y a là un lien, je ne sais pas. En tout cas, ça parlait indirectement de l'homme, que je ne représente pas, mais en tout cas qui est mentionné un peu à la manière de La Fontaine, qui parle de l'homme en utilisant l'animal pour garder, je dirais peut-être, une forme universelle de caractère. Voilà. C'est vrai qu'on s'identifie beaucoup à l'animal. La ville en ruine aurait pu être peut-être aussi, de la même manière que je parle de l'orgueil avec l'animal, une façon détournée de parler de la faculté de l'homme à construire, mais aussi à détruire. Voilà, donc il y a peut-être là un pont. Bon, que je ne fais pas forcément, puis comme c'est un travail que je n'ai pas beaucoup montré, voire quasiment pas, j'existe depuis l'animal. Enfin, on me connaît un petit peu depuis l'animal.
Les gens vous connaissent à travers cette partie-là de votre travail. Et quel matériau utilisez-vous ?
Alors au départ, c'était beaucoup de bois. C'est vrai qu'au départ, je n'avais pas beaucoup de moyens. Donc j'ai eu la Casa Velázquez. Donc je suis parti à Madrid avec des projets de céramique et de fonderie. Et puis, s'est trouvé que c'était un peu compliqué à mettre en œuvre. Donc, Et puis, s'est trouvé aussi que dans les poubelles, dans les bennes, les containers de Madrid, on trouvait énormément de bois, de poutres. Puisqu'à Madrid, à ce moment-là, on défaisait les planchers, on gardait les façades et on reconstruisait, on recoulait les planchers en béton. Donc, on trouvait beaucoup, beaucoup de bois dans les bennes à Madrid. Et m'est venue l'idée donc, d'assembler ces morceaux de bois pour créer des sculptures, si vous voulez, en anticipant déjà un petit peu la forme de ces volumes. Puis je me suis piqué au jeu, quoi. C'est vrai que plastiquement, il s'est passé des choses intéressantes avec le bois. C'est un matériau que je continue à travailler.
Et que vous mélangez avec d'autres matériaux ou que dans certaines compositions.
Effectivement.
Et en ce moment, on connaît de vous des sculptures de fonte de fer.
Oui, la fonte de fer. Oui, qui est encore une fois, au démarrage, j'avais peu de moyens et je cherchais donc à fondre des choses, puisqu'avec c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à travailler avec les paysagistes, avec qui on a commencé à imaginer de la sculpture en extérieur, dans des jardins. Évidemment, le bois se prêtait assez mal à ce genre d'exercice, puisque le bois a une durée de vie assez limitée en extérieur. Et j'ai eu la chance, par un ami sculpteur, Christian Renoncia, de rencontrer une fonderie industrielle avec qui on a commencé à imaginer, par le biais du polystyrène, une technique de moule au sable. On construit un modèle en polystyrène qui est directement moulé dans un moule au sable et fondu. Donc voilà, on appelle ça des polystyrènes perdus. Et de là, encore une fois, a démarré une histoire de sculpture avec ce matériau, en parallèle du bois. Donc voilà, je dirais que c'est un peu mes deux matériaux de prédilection, le bois et la fonte de fer. Bon, maintenant je fais du bronze, mais c'est une autre histoire, quoi, voilà. Autant la fonte de fer m'intéressait beaucoup, je dirais, pour... La fonte de fer ne jouit pas de la notoriété du bronze. C'est vrai que le bronze est un matériau noble. Pas la fonte de fer, on fait des plaques d'égout, des bancs, des lampadaires, mais ça aussi, ça me plaisait bien au même titre que le trophée anoblissait l'animal de consommation. La fonte de fer était anoblie par
les animaux que vous représentiez.
Voilà, l'idée de faire de la sculpture avec ce matériau-là. Donc là, il y avait un jeu, une corrélation intéressante. Et puis c'est vrai que la fonte de fer parle de l'industrie, parle de notre époque. Le bronze est un matériau plus antérieur, qui sa notoriété n'est pas à faire, elle est déjà faite. Mais pour moi, le bronze est un matériau de transfert, il n'offre pas en soi, c'est vrai que je pense aux sculptures d'Étienne Martin qui sont en bois, bon, transférées en bronze, Il y a l'intérêt plastique, je dirais, de la forme, de la peau, qui est intéressante. Mais au-delà de ça, c'est... le bronze n'est qu'un simple transfert, comme un tirage photographique.
Vous passez beaucoup de temps à dessiner avant de passer à la sculpture. Vous êtes très talentueux et vos dessins s'arrachent quand même, disons-le, dans les galeries. Des dessins qui étaient à l'origine préparatoires pour vous. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu cette démarche, ce passage du dessin à la sculpture, au volume, comme vous dites. Comment vous passez de l'un à l'autre? Pourquoi?
Alors effectivement, c'est vrai que souvent, pas systématiquement, mais très souvent, j'ai besoin...
Et vous aimez dessiner.
Oui, voilà, absolument. Oui, c'est un engouement depuis toujours. Mais pour passer au volume, c'est vrai que le volume comporte des étapes, telles que je le traite, d'assemblage, des étapes, puis il y a une mise en œuvre qui est quand même un petit peu plus conséquente par rapport à la peinture ou au dessin. Donc j'ai besoin de passer par le dessin pour, je dirais, anticiper la fabrication d'un volume. Du fait que ce soit des assemblages, je ne peux pas partir les yeux fermés. Donc le dessin me sert beaucoup à comprendre, à appréhender la forme, et il me permet, en tout cas, un peu à la même manière qu'un dessin industriel, d'anticiper les assemblages.
De ces dessins préparatoires, il y a un changement d'échelle que vous opérez après, quand vous passez à la sculpture ou pas?
Du tout. L'idée, effectivement, est de...
Ou c'est vraiment de visualiser?
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir le dessin déjà à l'échelle de la sculpture.
D'accord.
Voilà, donc la surdimension est déjà présente dans le dessin, ce qui me permet ensuite, je dirais techniquement avec un simple rapporteur, de reporter mes côtes et d'avancer avec un support très proche de l'échelle, même si je me permets quelques libertés entre le dessin et la sculpture, mais voilà, c'est vraiment une anticipation et une compréhension de la forme par le dessin, qui n'engage à rien, qui n'engage aucun matériau, qui est simplement un morceau de charbon.
D'accord. À quel moment vous faites le plus plaisir? Enfin, je pense à toutes les étapes d'une création, mais est-ce qu'il y a un moment dont vous voudriez nous parler?
Oui.
Un moment que nous, on ne perçoit pas forcément.
Je dirais que le dessin, déjà, quand il est à peu près en place, me permet de rêver de volume et me permet déjà de mentaliser très fortement le volume. Bon, il y a déjà une étape de plaisir intermédiaire. Alors après, se met en place le volume. Alors là, c'est plus compliqué, c'est un peu plus conflictuel comme sentiment. Beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup de doutes. Et puis une fois que la pièce est terminée, il y a effectivement un aspect très gratifiant qui apparaît et qui disparaît assez vite d'ailleurs, puisqu'on pense déjà à la prochaine. C'est-à-dire qu'une sculpture finie, aboutie, qui satisfait, donne envie d'aller plus loin et donne envie de reproduire les choses comprises et assimilées, de les confirmer dans une prochaine sculpture qui irait plus loin, qui utiliserait comme terroir la première, mais pour aller plus loin la fois d'après, quoi. Donc dans le plaisir, c'est le plaisir gratifiant d'avoir réussi quelque chose, mais c'est pas tout le temps, c'est même assez rare.
Le public peut voir vos sculptures dans certains jardins, déjà dans le parc du chemin de l'île de Nanterre, et puis il y a cette grande fontaine à Lille qui est déjà en place, qui montre alors là des ensembles, c'est assez volumineux.
Oui, c'est un ensemble.
Ça a l'air d'être gigantesque.
Non, à Nanterre, on avait 6 grandes sculptures, plus ou moins grandes, certaines faisant parfois 6 mètres de long, plusieurs tonnes en fonte de fer. Et à Lille, on a un ensemble de 28 sculptures qui sont accrochées, elles sont accrochées sur une paroi verticale, végétalisée. Donc on a l'impression que ces têtes, on les a appelées l'allée, puisqu'il y a une allée qui jouxte l'installation, on les a appelées l'allée des têtes cracheuses. Voilà, donc elles crachent de l'eau dans des vasques et elles émergent d'une paroi végétale. Donc on a le sentiment qu'elles traversent cette paroi, d'où émergent simplement le cou et la tête.
Un peu toujours cette idée du trophée aussi.
Oui, effectivement. D'un point de vue installatif, je pense que le départ était celui-là. Et puis, c'est vrai qu'avec une tête qui dépasse d'un massif végétal, on peut suggérer l'animal derrière. Et c'est vrai qu'il y avait une part suggestive dans cette fontaine qui nous intéressait de mettre en scène. Donc ça fait une fresque qui doit faire à peu près... Donc c'est en 3 morceaux, 3 pans de mur qui font chacun 8 mètres de long par 2 mètres de haut. Donc ça fait un ensemble d'une cinquantaine de longs, voilà. Quand on s'embarque dans une histoire de sculpture, je dirais qu'il y avait la recherche à la fois d'un sujet qui n'était pas abordé. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans à développer ce travail-là. Donc, je cherchais un thème qui soit à la fois universel, c'est-à-dire compréhensible de tous, sans explication aucune, compréhensible de toutes les cultures, de tous les âges. Ça, c'est vraiment quelque chose que je crois important dans l'art.
L'accessibilité.
Absolument. Voilà, de ne pas destiné son travail à une élite intellectuelle, une élite culturelle, enfin voilà, que ce travail puisse être à la fois compréhensible de tous, mais interprétable de plusieurs manières. L'idée étant de ne pas verrouiller un travail dans une idéologie ou un concept, mais que l'œuvre, comme point de départ, chacun puisse se réapproprier avec son propre regard, sa propre lecture, ce travail. Voilà. Donc l'animal est arrivé à la fois, parce que sculpturalement, c'est quand même une richesse énorme, le panel de formes autour de, finalement, deux yeux, un nez et une bouche, est assez vaste. Donc je dirais que pour un sculpteur, c'est un cadeau. Hein. Il y a vraiment, je crois, pas beaucoup de sujets qui offrent ça. En même temps, mon père est peintre, j'ai beaucoup appris avec lui. Il a abordé dans son travail à peu près tous les thèmes. J'en définis trois, le paysage, le portrait et la nature morte. Bon, il se trouve qu'il les a tous les trois abordés. Donc il me restait, du fait que j'ai beaucoup appris à dessiner avec lui, pour exister, peu de sujets. Il y avait la ville en ruine, le paysage urbain et puis l'animal. Bon, le point de départ était une simple étude préparatoire à ce projet de Lille. Alors bon, c'est vrai qu'elle a... J'avais fait, il y a très longtemps, j'avais récupéré des mannequins, des jambes de mannequins, et puis voilà.
Dans vos premiers travaux.
Exact. Toutes premières expositions que j'avais faites. Et très vieilles jambes en papier bouilli enduit, avec des culottes en lin, avec des canons qui correspondaient plus aux années 30 qu'aux années 90, donc un peu plus en forme. Et m'était venue l'idée de prolonger ses jambes avec des coups et des têtes d'animaux. Voilà, donc ça avait donné lieu à une espèce de chimère que j'avais appelée des baigneuses, puisqu'il restait ses culottes en lin, qui rappelaient des vieux maillots de bain années 30. C'est vrai que ça comportait une dimension un peu ironique, même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais...
Humoristique.
Humoristique, bon, si on veut, d'accord, voilà. En tout cas, moins paléontologique, moins... qui comportait moins le sérieux des crânes qui se référaient à des objets muséaux. Ouais. Voilà. Donc là, il y avait une dimension plus ludique, plus légère. Et c'est vrai qu'avec Lille, on avait très envie de montrer des animaux dans une attitude.
Parce que là, la girafe, c'est un élément de la fontaine de Lille ?
Non, du tout. Hein, non. Elle ne figure pas dans le...
Dans la fontaine de la fontaine des têtes cracheuses.
Mais voilà, c'est une pièce parallèle. Hein, C'est vrai que souvent, quand il y a un projet comme ça, ça donne lieu en atelier à des sculptures annexes. Donc voilà, elle a une attitude, je dirais, un petit peu comme ces baigneuses. Elle est un peu dragueuse, elle est très séduisante. Quoi. Donc c'est un peu en rupture avec les choses antérieures qui étaient plus dures. Voilà, bon, ça reste l'animal, mais...
Sous un autre angle.
Sous un autre angle, voilà. Bon.
Je voulais vous remercier de nous avoir accueillis pour cette interview.
Merci.
Vous venez d'entendre les interviews de François Veil, Agnès Braquemont et Quentin Garel, trois jeunes sculpteurs qui exposent à la Biennale de sculpture de Hyères en 2009.